Bien, merci Aude, bonjour à tous. Voilà, c'était un challenge très intéressant que d'être finalement invité par une philosophe, parce que dans l'histoire vraiment de notre projet, c'est Aude qui est l'initiatrice de ce colloque, d'être invité par une philosophe à réfléchir à la manière dont cette notion de virtuel pouvait impacter nos réflexions, parfois plus liées au design, comme la recherche-intervention, comme sont mes travaux, et bon, j'espère que le pari sera réussi. Donc voilà un peu le plan que je vais suivre. Alors, je vais, bon, mais au-delà déjà dit, et surtout, il va y avoir des intervenants bien plus pertinents que moi pour creuser cette définition de la virtualisation. Je vous rappellerai mon cadre, vous présenterai mon cadre, la sémiotique des fondations coopératives, qui me sert pour analyser les activités industrielles ou servicielles de manière très générique. Je vous dirai donc comment je réinterprète cette notion de virtualisation dans le cadre de cette fondation coopérative. Je ferai quelques rappels sur le service, hein, parce que globalement, l'objectif est de voir comment cette notion de virtuel peut nous permettre de penser les formes d'innovation, de changement, de renouvellement de la production économique, hein, donc qui recouvre ce qu'on appelle le produit d'un côté et les services de l'autre, même si les frontières sont de plus en plus difficiles à établir. Là, j'ai bien sûr choisi l'angle du service qui est plus pertinent quand on évoque la numérisation, donc je ferai quelques rappels sur cette question. Et dans le cadre de la production de services, ou aussi de la production de biens tangibles, je vous présenterai quatre modalités de virtualisation, qu'on peut aussi voir comme des modalités d'innovation, vous le verrez. Puis je parlerai de la numérisation. Alors bon, ça fait écho, je pense, à l'intervention de Milan Douy, qui a beaucoup travaillé récemment sur cette notion et à qui j'emprunte un certain nombre de conceptualisations. Et on conclura sur les relations potentielles entre numérique et virtualisation. Alors sachant que, oui voilà, avant de rentrer dans cette définition, l'objectif général des recherches que je conduis dans cet axe de réflexion, c'est de réfléchir à qu'est-ce que ça pourrait être une économie de la convivialité. Bon, pour des raisons que je n'ai pas vraiment le temps de développer ici, je préfère le terme d'économie de la convivialité au sens d'Illich à celui d'économie de la connaissance, qui me semble extrêmement porteur de nombreux pièges. Et en gros, il s'agit de surmonter les impasses de ce qu'on appelle l'industrialisme pour aller vers de nouveaux modèles de développement. Et dans cette perspective, l'objectif est de comprendre comment le numérique peut être utilisé au service de la convivialité et pas au service de l'industrialisme. Et donc voilà, la virtualisation est une opportunité pour penser l'innovation et la créativité, ce qui nous amènera à faire ce détour par la socio-économie des services. Alors peut-être juste un aparté très minuscule sur le statut de ce que je vous projette à l'écran, ce sont des brouillons, donc ce ne sont pas des transparents en bonne et due forme, donc vous allez probablement devoir passer, enfin voilà, tantôt vous concentrez sur ce que je dis, tantôt vous regardez un peu les transparents qui risquent parfois de passer vite. Voilà, c'est un nouveau style de présentation croisée que je véhicule depuis de longues années, au grand dam de tous les normalisateurs de l'usage des PPT. Alors, bon, à tout seigneur, tout honneur, hein, d'une certaine manière, cette présentation, elle va beaucoup s'inscrire dans un dialogue avec notre collègue et ami Pierre Lévy, qui est le premier à faire son livre « Qu'est-ce que le virtuel ?», qui est en ligne, hein, vous savez, sur le site de l'Université de Paris 8. Et bon, tout à la fois, je vais lui emprunter des notions, et puis vous allez le voir, je vais diverger vis-à-vis de certaines de ses conclusions qui préfigurent ses travaux actuels, les travaux qu'il mène depuis une dizaine d'années dans la définition d'un langage un peu universel pour unifier les connaissances selon différents points de vue. Bon, projet de recherche dans lequel je le suis moins, quoi, hein, j'adhère moins à ce projet, et vous verrez, je pense, dans ce débat que déjà dans son approche du virtuel, il y a un petit peu cette tension présente. Alors, bon, comme l'a dit Aude, mais là je vais donc être très rapide, il introduit cette distinction entre le possible et le virtuel, hein, en suivant Gilles Deleuze, hein, donc je peux le lire éventuellement, en disant le possible est déjà tout constitué, mais il se tient dans les limbes. Le possible se réalisera sans que rien ne change dans sa détermination ou dans sa nature, c'est un réel fantomatique latent. Il est finalement exactement comme le réel, il ne lui manque que l'existence. La réalisation d'un possible n'est pas une création au sens plein de ce terme, car la création implique aussi la production innovante d'une idée ou d'une forme. la différence entre possible et réel est donc purement logique. Le virtuel, quant à lui, ne s'oppose pas au réel mais à l'actuel. Contrairement au possible statique et déjà constitué, le virtuel est comme le complexe problématique, le nœud de tendance ou de force qui accompagne une situation, un événement, un objet ou n'importe quelle entité qui appelle un processus de résolution, l'actualisation. Donc, on prend la métaphore de la graine. Hein, le problème de la graine, c'est de faire pousser un arbre. La graine est ce problème, même si elle n'est pas seulement cela. Cela ne signifie pas qu'elle connaisse exactement la forme de l'arbre qui finalement épanouira son feuillage au-dessus d'elle. À partir des contraintes qui sont les siennes, elle devra l'inventer, le coproduire avec les circonstances qu'elle rencontrera. Poser un peu le cadre dans la suite de ce que vous venez de dire. Alors maintenant, quelques mots sur comment nous allons rendre compte des activités productives de consommation, de création et autres dans cette perspective de la sémiotique des transactions coopératives, donc qui est une élaboration, alors, bon, beaucoup de malentendus autour de cette expression de transaction coopérative. Il s'agit justement de s'opposer aux transactions marchandes en mettant en avant la coopérativité intrinsèque à toutes les formes d'échange. On pourrait considérer qu'on est très proche des visions interactionnistes, mais pour toute une série de raisons, là aussi, que j'ai pas vraiment le temps de développer, il y a des différences assez fortes entre cette perspective en termes de transactions issues de la philosophie pragmatique de Dewey et les approches interactionnistes, essentiellement langagières, et la schématisation qu'on peut faire d'une transaction, c'est donc de considérer qu'on a des sujets réalisateurs ou bénéficiaires. Bon, en suivant Grémas, on pourra faire la distinction entre le réalisateur et le destinataire, celui qui passe commande et qui ne réalise pas nécessairement l'artefact, et le bénéficiaire et le destinataire, celui qui finalement évaluera l'artefact médiateur sans en être forcément le bénéficiaire direct. Et puis, toute transaction est médiatisée par des artefacts médiateurs, et donc je donne à ce terme d'artefact un sens très très large, beaucoup plus large que celui qu'il a habituellement en anthropologie par exemple, puisque la gestualité, à partir du moment où elle renvoie à des gestes reproductibles, est aussi considérée comme un artefact, et dans la famille de cette gestualité, la gestualité orale, et donc la parole, est aussi un artefact médiateur. Voilà. Donc dans les artefacts, il y en a qui sont porteurs de valeur, et d'autres qui sont capacitants. Je vous renvoie sur mon site web pour trouver des articles qui détaillent ça davantage. Et donc, ces artefacts vont simultanément... chaque transaction transforme les artefacts, et transforme l'environnement dans lequel, alors on peut avoir deux points de vue, en fait c'est simultané, il y a simultanément transformation des artefacts et de l'expérience des sujets, et donc on peut avoir un point de vue plutôt centré sur l'environnement et les artefacts, plutôt centré sur les humains et les agencements collectifs dans lesquels ils sont engagés, les structures sociales si on veut, puis on peut complexifier un petit peu le modèle en disant qu'il y a une situation transactionnelle, et puis il y a un contexte transactionnel qui renverrait aux dimensions de l'institutionnel, technique dans un sens, justement avec une perspective à la fois temporelle et spatiale, beaucoup plus vaste. Hein, voilà, pour introduire un peu la terminologie, parce que je vais beaucoup parler d'artefacts médiateurs, c'est pas l'air trop chinois. Alors, la difficulté qu'on a, c'est bien entendu que ces transactions sont totalement réparties dans l'espace et le temps. Hein, ça, les pragmalinguistes le montrent bien, vous savez, dans une conversation, vous la commencez, puis vous l'interrompez, vous la reprenez dans un autre lieu, il y a certains fils qui vont être abandonnés, d'autres qui vont être repris, des personnes qui vont vous rejoindre. Hein, donc, toute cette idée, cette tentative de représenter une forme de flux transactionnel, enfin, l'ensemble des programmes transactionnels, un peu comme un rhizome, pour reprendre une métaphore de Deleuze, hein, dans lequel on a là des situations transactionnelles, une situation transactionnelle génératrice, qui sont réactivées en fonction de cet événement un peu initial dans différents contextes spatio-temporels. Alors, pour rendre compte des étapes du programme transactionnel, j'utilise la sémiotique de Grémas, qui alors, lui parle de quatre temps, hein, c'est une vision là diachronique, temporelle. Il parle du temps de la manipulation, du temps de l'acquisition de compétences, du temps de la performance et du temps de la sanction. Hein, donc c'est beaucoup basé sur les logiques narratives du récit. Vous avez donc un événement, une princesse a été enlevée par un dragon, donc la manipulation, c'est le moment où le roi va convaincre le prince de libérer cette princesse. Donc on parle de manipulation parce qu'il y a un transfert d'intention. La princesse va donc devenir un objet de valeur. Le prince va acquérir des compétences, son cheval, son épée. Il y aura une performance qui sera le combat avec le dragon. et puis une sanction positive ou négative, selon que la princesse a été libérée ou non, qui va se traduire par un heureux mariage ou par le bannissement du prince. Hein. Donc l'idée là était de dire, dans le fond, c'est pas que l'activité est du récit, c'est que c'est très difficile pour nous de donner du sens à des activités dans la perspective de la temporalité autrement qu'en les inscrivant dans cette logique du récit. Donc c'est un peu le récit est un peu comme une espèce de grammaire un peu universelle, on pourrait discuter de ce terme, de grammaire très pratique pour interpréter les situations. Et vous voyez, très volontairement, j'utilise des termes gestionnaires, hein, la performance, l'évaluation. Une performance, ce n'est rien d'autre que quelque chose qui a fait l'objet d'une virtualisation initiale et qui fera l'objet d'une évaluation. Alors, donc, si vous voulez, comme je vous l'ai dit, là je vais aller un petit peu vite sur ces transparents pour rentrer. Dans le vocabulaire traditionnel de l'économie, la transaction et l'échange ne désignent que les temps de commercialisation, de transfert des produits. C'est-à-dire que, dans le sens restreint de la transaction, l'offre est déjà constituée, la recherche des bénéficiaires potentiels est spécialisée de par le marketing, la conclusion d'une vente avec un transfert monétaire, et on n'inclut pas dans le sens de transaction les temps d'élaboration de la solution, d'imagination, de conception, de fabrication, d'usage ultérieur de la solution. Hein, donc ça renvoie justement aussi au pattern classique de l'industrialisme, hein, dans lequel, dans l'organisation taylorienne, il y a une stricte séparation entre, en fait dans les faits elle est difficile à réaliser, hein, notamment dans les activités servicielles, entre conception et fabrication, qui va être prolongée par le recours au marketing de masse dans le rapport au consommateur, avec une forme de dépersonnalisation de la relation client, et alors que le développement d'innovation conviviale va au contraire impliquer de réunir ces temps, hein, et on va présenter les différentes stratégies de qui va nous permettre de faire ces innovations, ces différentes stratégies de virtualisation qu'on appellera la servicialisation, la singularisation, l'intégration et la participation, mais je vais y revenir, qui vont intensifier la coopérativité transactionnelle. Donc, finalement, qu'est-ce que ce sera pour nous virtualiser un programme transactionnel, hein? Ce sera reconstruire ce programme en remontant à sa source. Donc, innover, changer, se renouveler, problématiser, se remettre en question. Et donc, dans les termes de notre sémiotique des transactions coopératives, cette virtualisation, elle impliquera, corollairement, une redéfinition des compétences, on pourrait dire de nouvelles professionnalités, une redéfinition de la performance, l'objet de valeur ne sera plus le même, on va transformer la définition de la valeur, et puis une transformation des critères d'évaluation associés aux attentes du destinataire qui renverra aux modalités contractuelles, aux formes de rétribution. Donc c'est ça qu'on doit faire si on veut virtualiser. C'est repenser ces programmes transactionnels. Donc là, on est dans une espèce d'approche de la créativité, comme un processus, comme un petit peu en analogie avec le vivant, un processus de renaissance, de recréation à partir d'un existant, par la réalisation d'une multiplicité de variations sur cet existant. Alors, on va maintenant rentrer dans le concret de la socio-économie en faisant quelques rappels sur les activités de service, en sachant que moi, j'ai une dette très importante vis-à-vis de ces socio-économistes du service qui m'ont permis finalement de faire le lien entre ces réflexions sur la coopération distribuée dans les organisations, dans le monde de l'art et de la culture, avec des problématiques véritablement économiques. Donc, alors quelques rappels, mais bon, qui vont se faire pour la plupart d'entre vous. Hein. La majorité des emplois aujourd'hui sont dans le secteur des services dans les économies développées. C'est une des caractéristiques de la société post-industrielle, et ça le sera certainement de la société ou de l'économie de la convivialité que j'appelle de mes voeux, ou de ce que certains appellent l'économie du quaternaire. Enfin, beaucoup de gens se cherchent pour penser à un au-delà du tertiaire, hein, le tertiaire renvoyant là aussi à une forme d'industrialisation du travail de bureau, du marketing. Bon. Et les services sont caractérisés par la difficulté à stocker leur produit final. Hein, pensez à l'éducation, le transport, la santé. Vous ne pouvez pas stocker des voyages SNCF ou des voyages en avion. Vous ne pouvez pas stocker un processus éducatif. Un produit souvent immatériel. Alors, le terme d'immatériel est un terme très compliqué pour les économistes. On va considérer que c'est surtout des choses qu'on a du mal à mesurer de manière tangible, à peser. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un support physique, hein, mais ça veut dire que, bien qu'il y ait ce support, dans la mesure où l'essentiel de la prestation relève d'abord de la relation, on a beaucoup de mal à trouver des instruments de mesure pour évaluer la performance. Et puis un processus de coproduction, alors un processus de production qui suppose une proximité entre prestataire et client, pouvant aller jusqu'à la coproduction, comme dans l'enseignement, le conseil, le transport. Hein, si les passagers ne sont pas disciplinés dans un TGV ou un avion, pas de déplacement possible. Alors, là aussi, donc, différentes typologies qu'on peut faire du service pour vous donner une idée de la diversité des activités que ça recouvre. On peut parler de services de logistique et de transport, hein, on a déjà parlé des voyages en avion, de maintenance et de réparation. Ce que les économistes appellent les services informationnels, c'est tout ce qui est banque et assurance, hein, parce que finalement la monnaie relève, on va dire faire un prêt ou assurer quelqu'un, c'est d'abord un travail informationnel d'estimation du risque, de la monnaie elle-même, hein, dans le fond, est une symbolisation d'engagement pour le futur, pour mobiliser les ressources dans le futur, et puis ce qu'ils appellent aussi donc les services immatériels et relationnels, qui renverraient plus à ces relations de conseil, d'éducation. Alors, bon, si vous voulez, il y a ensuite une grande difficulté aujourd'hui, parce que, ça va revenir de façon récurrente, beaucoup de sociétés de services vont parler de produits. Alors, dans le temps, c'était très simple de dire on a d'un côté le produit, de l'autre les services. Hein, mais maintenant, on a de plus en plus de produits-services, c'est-à-dire une production servicielle qui est formatée, un produit d'assurance, un produit bancaire, même l'enseignement, on va en parler en termes de produits. Donc, pour ça, je remobilise mon cadre d'analyse, et en fait, ma distinction principale, elle est entre les artefacts médiateurs qui sont autonomes et d'autres qui sont incorporés à la personne. Hein, quand vous parlez, l'artefact médiateur associé au langage, il est incorporé à l'orateur. Quand vous écrivez, la parole a une forme d'autonomie, et on pourrait faire de même pour toute une série de prestations, du genre un plat cuisiné, vous avez un artefact autonome. Quand vous allez au restaurant, l'artefact médiateur dépend de la présence du cuisinier, du serveur qui va agencer. Donc, alors, je ne rentre pas là-dedans trop dans le détail, hein, si vous voulez, je vais pas avoir le temps. Je saute un peu la typologie des artefacts. Donc, vous voyez, on peut aussi faire une différence entre ces artefacts médiateurs selon qu'ils sont à dominante sémiologique ou tangible. Hein, donc, si on parle d'un artefact purement incorporé qui ne repose que sur la gestualité et qu'il est à dominante sémiologique, on aura la parole, le chant, la danse ou autre. S'il est à dominante plutôt tangible, ça c'est une autre différence qu'on fait, si vous voulez, selon que finalement le support de l'artefact médiateur renvoie à un système symbolique, un système de signes, ou renvoie plutôt, s'interprète plutôt en référence à la physicalité des corps et des déplacements. Hein. Donc là, on aurait justement porté quelqu'un, le massé, artefact médiateur dominante tangible. Si vous pouvez avoir donc des prestations qui sont incorporées et instrumentées, la parole avec un haut-parleur, un geste technique outillé, ou un artefact autonome par rapport au réalisateur une fois le travail terminé, donc un livre, ou si c'est à dominante tangible, des aliments, des meubles, des vêtements. Alors, venons-en maintenant. Donc, vous voyez, l'idée, c'est de dire, on a un certain nombre de productions servicielles, de productions aussi d'objets tangibles, qui sont réalisées selon le modèle industrialiste. Et donc, comment pourrions-nous virtualiser ces formes de production de manière à produire des innovations de produits d'usage? Et on verra justement que cette virtualisation ne nous ramène pas à toujours plus de, on va dire, d'immatériel, mais pas au sens des économies, c'est-à-dire de choses qui sont du domaine de la modernité industrielle, des marchés complètement automatiques, des transactions de plus en plus automatisées, une absence de coprésence, mais qu'au contraire, ces formes d'innovation peuvent nous ramener vers plus de présence des corps, moins de fonctionnement automatique du marché, etc. etc. Alors, donc ces quatre formes de virtualisation, elles peuvent s'appliquer soit au programme transactionnel, donc on va pouvoir virtualiser l'artefact porteur de valeur en travaillant sur son degré d'autonomie dans un axe qui va de l'autonomisation de l'artefact à l'incorporation. On va pouvoir virtualiser les relations entre les sujets, le sujet réalisateur et bénéficiaire, donc selon un axe qui ira de la singularisation à la typification. Est-ce que notre solution sera très singulière ou est-ce qu'elle sera très générique? Puis on va avoir des modalités de virtualisation globale, donc du contexte dans lequel se déroulent les programmes transactionnels, donc un ensemble de programmes transactionnels récurrents, soit le cadrage de la valeur des artefacts médiateurs, dans lequel là, on remettra en cause le statut de cet artefact. On se rendra compte que là où on pensait avoir affaire à un bien relativement circonscrit, bien circonscrit, on est dans un écosystème fonctionnel où les frontières entre les artefacts sont beaucoup plus difficiles à établir. Ça, ce sera l'intégration. Et une virtualisation du cadrage des relations, on remettra en cause la notion même de séparation entre le réalisateur et le bénéficiaire. Et donc là, on appellera ça la participation. Donc voilà quatre formes de virtualisation que je vais passer en revue, peut-être un petit peu rapidement, mais encore une fois, tout ça est rédigé dans un article. Alors, donc, le premier axe, qui est celui de la servicialisation, si vous voulez, hein, donc je vous rappelle le premier, là, selon autonomisation, incorporation. Alors, on peut le voir de différentes façons, hein, de façon traditionnelle. Vous savez, aujourd'hui, on parle beaucoup d'offres de bouquets dans le domaine du marketing, c'est-à-dire qu'on vous voit un ordinateur avec du service, avec du conseil et autres. Donc, il y a bien entendu une première manière d'accroître la servicialisation qui consiste à accroître la part des services dans le bouquet. Donc, dans les offres, aujourd'hui, il y a de plus en plus de composants servicielles. Hein. C'est une des manières d'accroître la servicialisation. Une autre manière qui va beaucoup nous intéresser, c'est de travailler sur, dans la servicialisation elle-même. Parce que si vous voulez, la difficulté, c'est que les grands opérateurs de télécommunications dans les grandes entreprises de réseau, que ce soit les banques ou les opérateurs de télécommunications, sont deux très bons exemples. Ils n'avaient que le mot service à la bouche. Mais quand ils parlaient de service, quand ils se représentaient le service, ils se représentaient totalement sur un mode industriel. C'est-à-dire qu'ils ont mis en place toute la relation client aujourd'hui, y compris d'ailleurs dans l'administration, on en parlait à la journée de la BNR, et médiatisé par des centres d'appels qui sont des dispositifs d'anonymisation, d'automatisation de la relation, dans lequel on a un avantage, hein, c'est-à-dire que le centre d'appel, on peut avoir une réponse jour et demi, disons très rapide et très, voilà, mais on ne sait jamais à qui on s'adresse. Et quand on rentre dans une interaction, cette interaction, elle est totalement programmée à l'avance sur un téléscripteur. Donc, on peut opposer des relations de service dans lesquelles la dimension interactive est très... l'intensité de l'interactivité est forte, comme avec un centre d'appel, à des relations de service dans lesquelles l'agentivité, si vous voulez, qui traduirait la force de l'engagement du prestataire, est forte. Hein, et en fait, voilà, l'idée est de plaider pour revaloriser l'engagement dans la relation par rapport à l'intensité de l'interactivité. Le transfert d'agentivité qu'il y a dans ces rencontres, avec un fort engagement personnel, est une voie pour innover dans l'acte de la servicialisation. Et bien sûr, ça va impliquer des formes de professionnalisation importantes, parce qu'il y a tout le problème de l'engagement personnel du prestataire, qui ne doit pas être trop fort, parce que sinon il se rend malade par empathie, etc. Hein, donc il y a toute une série de réflexions passionnantes sur comment gérer ces relations. Et la dernière dimension dans la servicialisation, hein, c'est celle qui nous permet de passer. Alors, elle est vraie pour le service, mais elle est aussi vraie pour les biens tangibles. C'est le passage d'artefact médiateur à dominante tangible ou sémiologique. Hein. C'est-à-dire que, ça, c'est des problèmes compliqués, j'ai pas le temps de trop rentrer dedans, mais vous voyez, vous pouvez avoir des artefacts autonomes, donc qui seraient des produits au sens classique et tangibles. D'autres qui seraient autonomes et sémiologiques, d'autres qui sont incorporés et tangibles, un geste incorporé et sémiologique. Et on peut jouer dans cette grammaire en transformant beaucoup les choses. Par exemple, moi je m'interroge beaucoup sur IKEA parce que, à la fois, c'est un modèle qui me pose problème, puis en même temps, j'y recours de manière systématique et récurrente. Parce que, bon, c'est vrai que leurs produits sont très standardisés. Mais en même temps, voilà, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont donné une place considérable au salon d'exposition, au catalogue. Hein. Donc on peut dire qu'ils ont développé la dimension sémiologique, ils ont développé notre imaginaire. Et en abaissant les coûts, certes on est dans des produits standards, et beaucoup plus autonomes, beaucoup moins dépendants de quelqu'un qui nous ferait le montage du meuble ou un meuble singulier. Mais en même temps, ils augmentent la variation possible en termes d'équipement du domicile. Hein. Donc il y a des jeux intéressants qui se jouent sur ces dimensions dans l'axe de la servicialisation. Alors, la singularisation, elle est proche, mais ce n'est pas tout à fait la même problématique. Si vous voulez. Faire une offre singulière, c'est faire des offres qui vont prendre en compte la spécificité du bénéficiaire. Hein. Très souvent, on dit dans le fond, il faut faire des offres de solutions. Mais c'est un discours marketing, hein, mais si vous revenez vraiment à cette notion de solution, ça veut dire que la relation avec le bénéficiaire, elle n'est pas essentiellement drivé par l'artefact médiateur, mais elle est plutôt drivée par la nature de sa demande. Et, l'artefact médiateur va venir en réponse à sa demande, comme une solution à un problème posé. Alors là, dans ce texte sur l'innovation de service, je fais une différence comme ça un peu chronologique entre une époque pré-industrielle dans laquelle on fabriquait des biens qui avaient un côté un peu une forme de naturalité, des objets naturels, l'époque industrielle dans laquelle on fabrique des produits à proprement parler, donc ça renvoie à des réflexions à la Baudrillard et autres, le produit en tant qu'objet de consommation dans lequel on travaille pour le désir, dans lequel le marketing intervient, et des biens qui ont une nature plus singulière, on pourrait dire plus tertiaire, dans lequel on va plutôt travailler la notion de demande que celle de désir, on va plutôt raisonner en termes de solution que de produit, hein, et donc on sera moins dans une logique de consommation. Donc ce n'est pas tout à fait la même chose que la dimension de la servicialité qui renvoie, elle, au caractère plus ou moins incorporé ou à la nature de l'engagement. Hein, on peut vous engager de façon très forte, y compris dans un bien primaire. Hein, vous n'êtes pas obligé de faire cette remontée un peu en abstraction par rapport à la problématique du client. Donc voilà, c'est pour ça que ce sont deux dimensions différentes. Alors, voilà, je pense que vous avez compris. Donc maintenant, les deux autres formes de virtualisation, cette fois plus profondes, hein, elles vont au-delà d'un programme transactionnel pour travailler sur l'environnement technologique et fonctionnel ou sur la structure même des relations sociales sur un marché. Donc, la première, c'est ce que j'appelle l'intégration. Alors, ça renvoie aux travaux qu'on a conduits sur ce qu'on appelle l'économie de fonctionnalité, hein, qui est l'idée, en fait, de remplacer... Alors, ça peut vous faire penser à la singularisation, mais vous allez voir, le projet ici est beaucoup plus ambitieux. L'idée générale, c'est de remplacer la vente d'un produit par la vente d'une fonction. Mais cette fonction, elle est liée à... c'est des fonctions du type sécurité, mobilité, confort thermique. Et comme ce sont des fonctions très globales, elles impliquent nécessairement un groupement de parties prenantes et elles font émerger l'existence d'un bien partagé indivisible. Hein, pensez encore une fois à la santé, la sécurité, la mobilité. Si vous voulez organiser de la mobilité, vous devez faire coopérer alors déjà différents opérateurs de transport, hein, que peuvent être les transports en commun, pour la voiture individuelle, et ensuite l'aménagement des trottoirs, la réalisation de parking, la définition de finalement la localisation des bureaux, donc là on est sur des enjeux d'urbanisme. Hein. Donc vous avez le grand nombre d'acteurs industriels, des acteurs publics, la coopération d'associations. Hein, donc ce bien partagé indivisible qu'est la mobilité implique de multiples parties prenantes. Et on va devoir travailler sur la combinaison de toute une série d'effets incidents de réalisations qui sont interdépendantes, c'est-à-dire que si je me mets à faire un parking à un certain endroit, une station de métro à une autre, si je donne tel tarif pour ma ligne de bus, hein, vous voyez, à chaque fois il y a des effets incidents de ces actions, et pour obtenir l'effet mobilité, il faut les coordonner si on veut offrir une valeur d'usage accrue pour le bénéficiaire. Donc là vous voyez, c'est pas du tout la même chose que faire un bouquet de services. C'est pas où je vais assembler du produit puis de multiples services. Hein. Je fais vraiment un passage à la fonctionnalité pour valoriser les effets incidents de transactions interdépendantes dont l'association va produire une valeur ajoutée forte pour les transactants. Doublée de la valorisation d'externalités jusqu'alors non prise en compte. Alors bien sûr, pour amortir ce type d'offre, hein, parce qu'il y a vraiment des industriels qui s'intéressent en lien avec les pouvoirs publics à produire des offres d'économie de fonctionnalité, eh bien, il faut un investissement dans la durée parce qu'il faut rentabiliser des efforts de coordination très importants consentis par les fournisseurs. Donc, je passe sur les exemples. Et enfin, le dernier axe, c'est l'axe dans lequel on va transformer cette relation réalisateur-bénéficiaire. Hein, dans le livre de, par exemple, de Pierre Lévy, mais dans tous les gens qui réfléchissent sur la modernité, on travaille beaucoup sur les marchés. Hein, les marchés qui deviennent globaux, qui deviennent internationaux, qui sont effectivement le lieu... Enfin, un marché, aujourd'hui, ils n'ont pas toujours très bonne presse, mais en vérité, ce sont quand même des lieux de, comme dit mon collègue prof de finance, des lieux d'intelligence. Hein, c'est-à-dire que dans le marché, les offreurs et les bénéficiaires se rencontrent, discutent, évaluent. Je veux dire, le marché est une forme de coordination tout à fait passionnante. Mais bon, ce n'est pas la seule. Et surtout, quand on veut virtualiser, il faut remettre en cause certains marchés. Donc, selon la problématique de la participation, on aura trois stratégies. Hein. Bon, la plus faible, c'est l'écoute client intensive qui peut aller jusqu'au co-développement avec des clients pilotes. On a ensuite une autre niveau qui est celle de la copropriété. Là, oui, on change complètement la relation marchande. Là, on est dans le cas de l'open source ou des licences Creative Commons. On peut aller encore plus fort jusqu'à la co-décision. Hein, c'est-à-dire que, parce que dans l'open source, on n'est pas forcément co-décideur, même si il y a un partage de la propriété du source. Dans le domaine politique, là, vous voyez, on sort complètement des relations marchandes traditionnelles. Voilà. Alors, vous voyez, là, j'ai présenté quatre formes de virtualisation des productions servicielles ou tangibles, hein, qui étaient l'accroissement de la servicialisation dans le sens d'une plus forte agentivité, plus fort engagement, l'accroissement de la singularisation des offres. Je pense solution plutôt que penser produit de consommation. Je transforme complètement mon marketing, qui est plus un marketing de masse, de conditionnement, et j'essaye de revenir aux besoins. Les offres de fonctionnalités qui vont intégrer toute une série de prestations pour atteindre un bénéfice global qui relève de la combinaison d'externalités positives et la participation qui va transformer la nature même de la relation marchande. Alors quel rôle peut jouer la numérisation, puisque c'est quand même, enfin, c'est un de nos objectifs en sens de l'information et de la communication, puisque à la fois dans le laboratoire et dans beaucoup de recherches qu'on mène, on cherche à associer sciences de la communication, dont pourrait relever la première partie de mon exposé, et sciences de l'information, dont on relève la deuxième partie. Alors, la numérisation, donc voilà, peut-être que Milad va revenir sur certains aspects, hein, c'est très difficile aujourd'hui. Milad explique par exemple pourquoi est-ce qu'on parle plus d'informatisation que de numérisation, qu'est-ce que ça veut dire, en quoi la culture numérique est véritablement un processus très, très spécifique et en quoi l'informatique relève de formes d'innovation basées sur la science, là aussi tout à fait particulière. Là j'ai essayé, alors, d'une manière qui n'est pas complètement chronologique, de montrer comment il y a différentes strates de ce processus de numérisation progressive qui vont renvoyer à différents paradigmes de recours à la numérisation, et vous allez voir que je vais plaider pour le recours à certains paradigmes d'usage du numérique pour permettre une virtualisation des prestations servicielles. Donc la première approche, c'est celle de l'automatisation de routines matérielles et de routines de calcul. Hein, elle est fondamentale, c'est les premiers automates. Et là, comme on le verra par rapport au paradigme, on est dans une dimension de substitution à l'homme par des machines pilotées par des programmes, des automates, ou par des systèmes de calcul qui vont automatiser des routines mentales. Deuxième forme de numérisation, alors les quatre suivantes vont relever du paradigme qui n'est pas celui de la substitution, mais du paradigme qui est celui de l'augmentation des capacités humaines. Alors, le premier, c'est l'aide à l'interprétation à la décision. Hein, très, très rapidement, les gestionnaires, les économistes, les ergonomes ont montré que ce n'était pas du tout pareil d'être dans une informatique de substitution que d'être dans une informatique d'aide à la décision, ou d'aide à l'interprétation, d'aide à la lecture. Hein. Tout ce qu'on va entendre dans le colloque, quand on va évoquer les possibilités de navigation dans les documents et les données, ou les possibilités de simulation, hein, relève de ces approches liées à l'aide à l'interprétation et à la décision. Troisième approche, alors elle est en partie, je pense que temporellement elle vient un peu après, c'est le stockage d'une masse considérable de production sémiotique et la possibilité d'avoir un accès quasi instantané à ces artefacts sémiotiques, à cette matière documentaire, si vous voulez, doublé maintenant de la possibilité d'indexer des artefacts tangibles, hein, avec l'Internet des objets. Là, c'est une autre fonctionnalité, hein, tout à fait essentielle, qui est vraiment potentialisée pour le coup par les moteurs de recherche, qui nous rend disponible de façon très rapide toute une série de contenus multimédia. Quatrième mouvement, celui-là qui relève plutôt de la télécommunication, c'est l'accès généralisé aux données, aux capteurs, aux personnes, grâce à ces infrastructures qui nous permettent de communiquer en mobilité. Donc c'est la convergence du web et de la mobilité qui représente vraiment cette époque. Et la cinquième, alors j'ai hésité à en faire une, mais bon, Milad dans son livre insiste beaucoup sur l'importance de l'amitié virtuelle et autres. Je pense que c'est vraiment là aussi quelque chose de très singulier, c'est cette, ces annuaires quoi, finalement autoproduits dans lesquels tout le monde se retrouve, liés aux, aux réseaux sociaux et aux possibilités d'expressivité associées. C'est ça, stade de la numérisation, on peut les schématiser en parlant de cinq paradigmes. Donc, le paradigme substitutif lié à la physicalité du corps et aux routines mentales, qui est dominant dans l'industrialisation, et qui ne s'agit bien sûr pas de supprimer. Hein, c'est-à-dire, si on fait appel à l'informatique, c'est bien sûr parce que on veut utiliser à notre profit ces possibilités d'automatisation et de délégation. Hein, le problème, c'est qu'elles ne doivent pas nous être imposées. On ne doit pas être contraint par ce paradigme substitutif. Hein, c'est le drame de c'est le drame du travailleur à la chaîne, c'est le drame de l'utilisateur d'un logiciel d'un logiciel de gestion intégrée ou d'un ERP, c'est que on le confine dans dans une procédure et il a très peu de degrés de liberté parce que l'idée c'est de se substituer au maximum à lui de manière à réduire le risque, à réduire son autonomie, etc., etc., à avoir une espèce de vision de l'efficience très très loin de l'économie de la convivialité auquel on faisait référence, hein, très industrialiste. Et puis un autre paradigme qui est augmentatif, mais qu'on peut donc là il s'agit d'accroître le potentiel de l'individu, hein, d'être à son service, et donc il va être demandeur de ces formes d'informatisation. Hein. Très souvent, les opérateurs ils refusent l'automatisation substitutive parce qu'ils voient bien qu'il s'agit de les remplacer, mais ils sont demandeurs, c'est ce qui est nouveau dans le 2.0, ils sont demandeurs d'une informatique, d'une numérisation augmentative. Hein. Donc, selon un paradigme interprétatif qui renverrait à l'intelligence, plutôt mémoriel, donc c'est ce qu'on disait par rapport au stockage des données, qui renverrait au temps long, plutôt ubiquitaire dans l'espace-temps des rencontres, ou plutôt relationnel, hein, la notion de présence, là, par le type de visage, de récit. Et donc, alors là, j'ai bientôt terminé. Si vous voulez, qu'est-ce que c'est la relation entre numérique et virtualisation? La virtualisation, c'est une invitation à repenser ses services, à repenser ses prestations, dans le sens d'une augmentation, comme on vient d'en parler là. Et cette virtualisation, elle ne va pas nécessairement, c'est ce que je vais développer maintenant, dans le sens d'une globalisation sans entrave qui exploiterait qui finalement irait vers plus de standardisation de l'activité, vers une uniformisation, un appauvrissement des langages, vers une forme d'universalisation et autres, par une forme de dévalorisation de la temporalité des rencontres et de la spécificité des lieux dans lesquels ces rencontres peuvent avoir lieu. Et là, c'est un débat très compliqué. Bien sûr, les infrastructures logistiques sont importantes, hein, ça commence par les routes, et puis ça ensuite les questions d'interopérabilité du protocole Internet. Hein. Mais, si vous voulez, vous allez pouvoir utiliser nos routes de manière très très différente. Hein. Vous allez pouvoir utiliser un standard logistique pour faire des choses qui peuvent aller soit dans le sens de l'appauvrissement, de la domination d'une civilisation par l'autre, soit au contraire dans le sens de l'émergence de mouvements innovants, de révoltes. Donc il n'y a pas de déterminisme derrière ces infrastructures logistiques, comme parfois certaines visions informaticiennes le laissent à penser. Donc voilà, il y a un rôle spécifique du numérique dans la virtualisation, parce que en fait il nous fournit de très fortes incitations, hein, quel que soit le service que vous regardez aujourd'hui. Si vous commencez à vous dire finalement la numérisation dans le domaine, enfin, dans le sens de la substitution, dans le sens de l'augmentation interprétative, mémorielle, ubiquitaire, relationnelle, qu'est-ce que je peux en faire, c'est très stimulant, si vous voulez. Hein. Bien entendu, le numérique n'est pas la seule incitation à la virtualisation. Et on va utiliser d'autres déterminants techniques qui ne relèvent pas du numérique. Hein. On peut utiliser des propriétés de conservation de matériaux, de l'énergie, enfin, donc il y a beaucoup d'autres, si vous voulez, de dimensions techniques qui vont intervenir pour repenser, pour réimaginer des services plus conviviaux. Mais le numérique a un rôle très particulier, hein, de même qu'à d'autres technologies. Vous voyez, les mécanismes qu'on a examinés là, de singularisation, d'incorporation, d'économie de fonctionnalité avec des externalités positives ou de participation, ce n'est pas des enjeux qui sont intrinsèquement numériques. Mais là aussi, le numérique peut offrir, si on le voit selon la perspective de l'augmentation et passée de la substitution, des opportunités importantes. Alors, peut-être juste un terme terminologique avant mon dernier slide qui reviendra sur, mon dernier transparent qui reviendra sur les travaux de Pierre Lévy. Donc on pourrait dire, quand on parle de virtuel, là j'ai parlé beaucoup de virtualisation, mais de virtuel au sens de communauté virtuelle, d'entreprise virtuelle, de rencontre virtuelle, On pourrait en parler, bon, c'est ouvert au débat, et je ne sais pas si c'est pas là que l'épisode est, mais pour souligner le fait qu'en fait, on est dans un processus d'innovation, de changement, de reproblématisation, de recréation, qui laisse ouvert une multiplicité de développement potentiel, alors notamment sous-tendu par les possibilités substitutives et augmentatives de la technique. Elles ne sont pas encore complètement concrétisées dans des programmes transactionnels effectifs, dans lesquels, in fine, on ne parlerait plus d'un service virtuel, même s'il est numérique, si vous voulez. Ça veut dire qu'on est encore dans une phase d'apprentissage, d'expérimentation. Et puis après, on ne parlerait plus d'un service virtuel, mais on pourrait parler simplement d'un service numérique pour dire qu'il tire parti de manière intensive de la numérisation, mais que dans le fond, on sait bien dans quelle direction, dans quel sens on veut l'utiliser. Amazon aujourd'hui, après avoir été révolutionnaire, c'est plus vraiment un distributeur virtuel dans la plupart de ses offres. Sauf quand il se met à offrir de nouveaux services autour de sa tablette. Hein. Là, on se dit, tiens, il est en train de changer complètement le dispositif, l'économie de la filière, hein, parce que voilà, il va pouvoir offrir le livre sur son terminal, peut-être en ligne, il va pouvoir travailler avec les éditeurs d'une manière encore plus... Bon. Donc là, on pourrait dire qu'il revirtualise une partie de son programme transactionnel, hein, il virtualise une partie de sa valeur, des compétences, de ses compétences à lui, des compétences de ses clients. Voilà. Alors, donc, pour conclure, notre différence avec Pierre. Alors, bon, j'aurais dû vous présenter plus avant la manière dont Pierre Lévy, après sa définition initiale que je vous ai présentée, tire les conséquences de la virtualisation dans la modernité. Quoi, hein. Donc, il va faire référence justement au fait que l'information n'a plus de support, qu'elle est sur le web, donc que le texte finalement se réactualise de manière très différenciée. Bon, ce qui n'est pas faux, hein, mais du coup, voilà, on est dans cette idée de vision de l'intelligence collective comme une espèce d'intelligence planétaire qui serait un peu une espèce de... il va parler justement des marchés qui deviennent mondialisés, bon, finalement là aussi qui sont complètement délocalisés. Je me rappelle plus le troisième exemple qui va donner des contrats. Enfin, bon, voilà. Et il dit finalement c'est un mouvement qui va depuis les débuts de la civilisation, de l'humanité, jusqu'au monde moderne. Quoi. Et finalement, ces travaux actuels, hein, donc ils sont, je ne me rappelle plus le nom de son système, là, de son langage qu'il est en train de développer, visent à avoir un système de langage heuristique de haut niveau qui permet de rassembler tous les domaines de connaissances de manière à pouvoir les combiner en tirant parti de l'informatique et autres. Hein, mais toujours dans cette vision que... cette virtualisation, dans le fond, va toujours vers plus de déterritorialisation, vers plus de l'anonymat dans les marchés, vers plus de caractère immatériel du savoir et autres. Hein. Et là, finalement, ce que j'ai essayé de vous dire, c'est que la virtualisation, elle peut nous conduire à faire exactement l'inverse, et même avec le numérique. Donc, elle peut nous conduire à augmenter des productions qui sont incorporées, qui nécessitent la présence des corps, qui nécessitent un engagement personnel, moral des sujets. Il n'y a pas de conflit, c'est-à-dire qu'à un moment où vous voulez virtualiser un service culturel, ben vous dites qu'il faut faire de l'événementiel, il faut de nouveau mettre les gens en coprésence sur une scène ou dans une rue. Elle peut augmenter la singularisation des artefacts médiateurs au détriment de leur standardisation. On va revenir à des produits extrêmement singuliers, des produits faits à façon. On va revenir sur ce qu'on appelle leur commodification. Non, ce ne sont pas des biens, ce sont des biens très... porteurs de culturalité et autres, on va sortir de leur marketification, on va parler de la fraude. On va ancrer les artefacts dans des écosystèmes fonctionnels très territorialisés pour bénéficier des externalités. Hein, c'est-à-dire quand on travaille sur des enjeux de mobilité, cette mobilité, elle va vraiment dépendre, comme on le disait, de l'emplacement du parking, de l'emplacement de l'entreprise, les externalités, à chaque fois, c'est des enjeux qui sont dépendants du climat, dépendants de la terre, dépendants de... Bon, y compris dans des choses vraiment micro-locales, quoi. Et puis, on va déconstruire les marchés. Encore une fois, je n'ai rien contre les marchés, mais de temps en temps, pour se renouveler, on change un certain type de fonctionnement marchand en imaginant des nouvelles formes de participation, en redéfinissant cette relation réalisateur-bénéficiaire, en imaginant des formes de coproduction, de copropriété et de co-décision. Voilà.
Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup pour cet exposé très, très riche. Je pense qu'il y aura des questions. Est-ce que le micro marche ?
Je ne peux pas sortir. Merci.
Je vais peut-être attaquer par la première question pour lancer la discussion. Bon, merci Emmanuel, ça soulève beaucoup de pistes très passionnantes, donc beaucoup de questions aussi. J'en aurais pour ma part, je vais essayer de limiter, disons, à peut-être trois questions. La première, peut-être un petit peu périphérique par rapport à ton propos, mais je ne sais pas, tu vas me le dire. Quelle place tu fais dans ce projet de nouvelle logique de virtualisation, en fait, à la communication? C'est-à-dire, est-ce que c'est ce que tu mets dans les artefacts médiateurs sémiologiques? Je repense notamment à l'exemple que tu as pris d'IKEA, où je pense que justement la communication d'IKEA, communication publicitaire, hein, y compris, je pense, joue un rôle important justement dans son positionnement, dans peut-être sinon l'offre de service de l'entreprise, en tout cas l'image de cette offre. Hein. Une autre question, alors peut-être plus fondamental par rapport à ton propos, je pense, c'est ce que tu appelles les paradigmes augmentatifs, que tu as décliné donc en interprétatif, mémoriel, ubiquitaire, relationnel. Est-ce que il n'y a pas en même temps, y compris justement dans ces logiques-là, donc du stockage, de l'ubiquité et des réseaux sociaux numériques, donc autour du relationnel, est-ce qu'il n'y a pas aussi à chacun de ces niveaux un risque de développement paradigme substitutif, hein, où y compris dans les réseaux sociaux, plutôt que de développer de la relation, on développe une conception finalement très, très calculée de l'identité, au niveau de l'ubiquité on développe la géolocalisation et donc des formes de surveillance, etc. Bon, je pense que tu vois à quoi je fais allusion. Et puis, dernière question, qui va peut-être d'ailleurs dans le même sens, c'est ton exemple d'Amazon qui m'a fait penser à cette question. Est-ce que, en fait, quelle place tu fais dans ton système au conflit, aux formes de négociation? Tu as évoqué à plusieurs reprises comment les consommateurs eux-mêmes pouvaient évidemment prendre part dans ces formes de virtualisation, mais jusqu'à quel degré, je pense notamment, et là aussi, donc, quelle est la place du numérique là-dedans, par exemple les forums de consommateurs, par exemple avec les opérateurs de téléphonie, on sait le rôle qu'ils peuvent jouer, à la fois peut-être justement dans le sens d'une virtualisation, mais ça passe quand même beaucoup par du conflit, par des affrontements. Et est-ce que, là je reviens à l'exemple d'Amazon et donc de l'offre par rapport au livre électronique, notamment, est-ce que les logiques propriétaires, les questions de droit d'auteur, les conflits cette fois non pas entre consommateurs et entreprises, mais entre différents secteurs et là en l'occurrence entre différents, disons, ayants droit, constitue pas un obstacle majeur à ces formes de virtualisation que tu appelles de tes voeux?
Merci. Alors, écoute, sur le premier point, donc c'est un point presque technique entre nous sur le statut de la communication.
Oui, c'est pas le plus important, hein, mais bon.
Non, c'est toujours intéressant parce que, effectivement, d'une certaine façon, tout est communication dans mon modèle, hein, puisque quand tu donnes à manger à quelqu'un, t'as un artefact médiateur, mais t'as un médiateur, un bénéficiaire, t'as des choses qui vont se... Alors, effectivement, il y a quand même des artefacts médiateurs qui ont plus une dimension sémiologique. Donc là, on serait vraiment dans le champ qu'on appelle classiquement de la communication, mais bien entendu, en ne différenciant pas, alors parce que dans les sciences de la communication, la communication organisationnelle, c'est-à-dire la communication dans la sphère de la production, qui fait référence à la coopération beaucoup, même si malheureusement, c'est pas des notions qui sont assez mobilisées, à mon sens, dans les travaux... De com actuel, ce qu'on appelle la communication interne-externe des organisations qui renverrait à la publicité. Hein, donc, par exemple, l'image de marque, ce genre de choses. Donc, l'idée est de ne pas les dissocier, hein, dans mon cadre. Quoi. Donc, c'est effectivement Mais voilà, c'est bien sûr pas du tout la même chose que d'être dans une coopération à l'intérieur d'une entité de production ou à destination de clients, même si c'est clair que, quand je parle de transaction coopérative, c'est bien pour dire que c'est plus possible de considérer qu'aujourd'hui, le client est complètement... la relation client n'a pas d'impact sur les formes de coopération interne. Quoi, hein. Bon, c'est bien sûr le cas dans l'université ou autre, mais même à la limite, pour des entreprises beaucoup plus... Je ne suis pas plus long sur ce point, mais c'est tout à fait... pour moi, il n'y a pas de coupure. Enfin, tout artefact est porteur d'une dimension en partie sémiologique. C'est que des affaires de dominance, hein, c'est-à-dire le recul. Alors, sur ce que tu me dis sur le fait de parler de substitutif augmentatif, je suis bien sûr tout à fait d'accord avec toi. Il faut que c'est vraiment des choses que j'ai rédigées très récemment. Bien sûr, la tentation de la substitution est présente dans l'aide à la décision, dans la mise en relation. Moi, quand j'ai commencé à travailler il y a plus de 20 ans sur le système expert, c'était pour dire justement le système expert ne doit pas être conçu comme quelque chose qui remplace l'expert. Et si vous faites ça, vous allez à la catastrophe. C'est dans le cadre d'un dialogue. Alors, il faut qu'on parle d'un dialogue coopératif entre l'homme et le système. Aujourd'hui, je ne dirais plus dans ces termes. Hein, mais effectivement, à chaque fois, notre point doit être d'insister sur le fait que on peut créer de la valeur autrement que dans la substitution. Et alors, ça fait le lien avec ta dernière question sur les questions de conflit et sur les formes de critique que je développe dans ce type de présentation. C'est-à-dire que ce que je veux absolument éviter, c'est des formes de critique dans lesquelles le monde de l'entreprise comme ça s'appelle, le capitalisme, ce genre de choses, quoi, serait du côté de ce à quoi il faudrait s'opposer. Quoi. C'est-à-dire que les gens en gestion ou en économie avec lesquels je travaille considèrent que les acteurs économiques, les entrepreneurs, bien sûr, comme tout le monde, dès qu'ils peuvent bénéficier d'une position avantageuse, ils ne vont pas se gêner pour le faire. Et il faut être très vigilant vis-à-vis de ça. Mais ce sont aussi des gens très créatifs, qui cherchent à faire le bien, à gagner leur vie de façon intelligente. L'idée, c'est vraiment de dire qu'il faut être critique, mais il faut avoir des critiques constructives, parce que, dans le fond, si on suggère à ces acteurs des modèles économiques différents qui leur permettront également de faire leur métier et de rémunérer leurs investisseurs et leurs collaborateurs, peut-être qu'ils les suivront. Alors que si on est dans une position de critique radicale en disant je vois bien que dans le fond toujours ce que vous voulez c'est accroître la captivité, ce qui est peut-être tout à fait vrai pour certains par ailleurs, hein, c'est-à-dire que les choses ne sont jamais simples. Et je veux dire, donc si tu veux, c'est ça mon... je reformule le conflit en critique, si tu veux, parce que dans les sciences sociales, il y a toujours ce débat de dire si on est dans l'ingénierie, alors dans le fond, on est un social traître. Hein, c'est-à-dire que...
C'était pas mon propos.
ce que je veux défendre, c'est une position ingénierie et critique. Vous voyez bien quand on tombe.
Il y a d'autres questions ?
Bonjour, enfin merci pour poser très long. J'avais juste un constat par rapport au rapport entre le collectif et la convivialité autour des outils numériques, c'est que les outils jusqu'ici étaient tous personnels. Et qu'on avait un rapport au numérique qui était toujours médié par l'outil personnel, éventuellement aux autres, mais qui ne permettait pas une interaction avec d'autres en présence. Avec l'arrivée des tablettes, ça change un peu la donne. On commence à avoir des outils qui permettent justement la coprésence et une interaction prévue pour cette coprésence. Donc je pense un peu aux tables interactives, des choses comme ça. Et j'ai l'impression qu'il y a une évolution par outil vers peut-être cette continuité. C'est juste une remarque pour un technicien, pas un technicien.
Comme je suis un vieux chercheur en informatique, mais on est rapidement dans cette discipline jeune, et qu'on a vu le groupware naître dans les années 80, Donc la volonté de la coopération et de la coprésence, elle est très ancienne. Alors là, vous avez tout à fait raison, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on a une matérialisation tout à fait inédite, qui change la donne. Là, je vous rejoins.
Alors moi, j'aurais également deux questions. Tout d'abord, par rapport à un point très, très général, je ne suis pas sûre d'avoir parfaitement compris, je ne sais pas si on m'entend bien, qui en fait concerne la distinction que tu établis entre la virtualisation, la notion de virtuel et celle de numérique. Alors moi, étant pour le coup très ignorante en informatique, je voudrais que peut-être tu clarifies un peu cette distinction qui, pour moi, en tous les cas, n'est pas du tout évidente. C'est-à-dire que dans ton discours, je vois bien à quoi tu renvoies en parlant de virtualisation, mais malgré tout, que tu le distingues clairement de la notion de numérisation, je ne suis pas sûre de comprendre très bien. Donc, est-ce que tu peux préciser peut-être cette distinction ?
En fait, je crois que c'est aussi la position de Pierre Lévy, hein, mais effectivement, il n'y a pas de relation automatique, causale, entre virtualisation et numérique. C'est-à-dire que si on définit la virtualisation comme une reproblématisation, le numérique n'est là que pour nous inciter, comme une opportunité extraordinaire de bousculer, d'innover, de redéfinir ces relations client-fournisseurs, de redéfinir la nature de la valeur. Mais dans la terminologie que j'ai employée, en tout cas, il y a simplement une espèce d'effet de simultanéité entre... alors qu'il y a peut-être des liens de causalité plus profonds, si tu veux, hein, mais entre le fait qu'on arrive aujourd'hui dans un épuisement des modèles un peu industrialistes et autres, avec une recherche de nouvelles formes d'innovation et donc de virtualisation des programmes transactionnels en sens d'une reproblématisation, d'une renaissance, d'une redécouverte, et le fait qu'on dispose d'un substrat technologique tout à fait exceptionnel qui est celui du numérique. Tu vois, mais effectivement, tu peux tout à fait scanner des documents sans faire de la virtualisation, parce que tu peux renvoyer justement à des usages de ces documents qui vont rester extrêmement conventionnels, sur le mode de la substitution, c'est-à-dire je prends l'existant, tu vois, et puis j'essaie de le transposer dans le monde numérique. Donc là, tu auras numérisé sans du tout virtualiser. Donc il se trouve que la plupart du temps, le numérique nous invite à la virtualisation. Et on peut très bien avoir des pratiques d'informatisation, de numérisation, qui ne renvoient pas, qui ne virtualisent absolument pas, qui reproduisent à l'identique.
D'accord, en fait, oui, je comprends mieux, c'est-à-dire que le terme est utilisé en un sens très, très large, qui est celui de Lévy, de numérisation, de...
Voilà.
Moi, j'en aurais une seconde, s'il n'y en a pas. Concernant le rapport que tu établis, là aussi, entre la notion d'ubiquité et de relocalisation. C'est-à-dire que finalement, il y a quelque chose que je trouve très, très intéressant et qui, au fond, est assez optimiste comme idée, à savoir que la virtualisation aujourd'hui, opérée par finalement le modèle augmentatif que tu proposes, il permettrait finalement d'avoir une forme d'ubiquité et en même temps, selon toi, qui donnerait plutôt lieu à de la relocalisation et non pas à de la globalisation anonyme et à une espèce comme ça de détachement, de dissolution des espaces-temps spécifiques. Alors là, j'avoue que je trouve ça extrêmement intéressant et j'aimerais que ce soit vrai, enfin, que ce soit possible. Mais il y a quand même pour moi une tension importante entre la notion même d'ubiquité et de tendance ubiquitaire et celle de relocalisation, de reterritorialisation, etc. Donc est-ce que cette tension, comment est-ce que tu la penses et est-ce que tu as des... Comment est-ce que tu penses qu'on peut articuler au fond cette dimension ubiquitaire et la relocalisation, selon toi, autorisée par la virtualisation ?
Je pense qu'effectivement, c'est à un moment donné, il y a une tendance naturelle à routiniser les choses. Et donc dans la routinisation, on peut très bien ne plus avoir besoin véritablement de se rencontrer, on peut finalement ne plus avoir besoin de retourner voir un lieu auquel on est attaché, parce que finalement je le vois en image, parce que bon. Et puis si à un moment donné, on remet en question, si tu veux, dans une trajectoire de vie personnelle ou dans l'innovation d'affaires, ces routines en se disant il faut changer, alors à ce moment, on va nécessairement revenir au lieu, lui redonner la valeur. Mais tu vois, bon, c'est un premier niveau de réponse, c'est-à-dire que tu vois, donc il y a une tendance qui va dans ce sens que tu décris d'une anonymisation, d'une indifférence à la fois à l'autre, au lieu, au moment, au temps. Et puis à un moment donné, si tu veux aller contre, hein, tu vas être obligé de revivifier le. Enfin, ça, ce serait un premier élément de réponse. Le deuxième, c'est que si, alors maintenant plus socio-économique, si on veut aller vers ces évolutions vraiment réelles de l'économie, si tu veux, qui tiennent compte des contraintes écologiques et de toute manière, c'est certainement pas, même si ça peut être aussi des tendances, par exemple de l'industrie des énergies renouvelables aux États-Unis, où on va par exemple raser des collines pour mettre des panneaux solaires, si tu veux, en tenant pas du tout compte de l'écosystème existant. Si on veut vraiment combiner les externalités de différentes activités, on ne peut pas le faire autrement que en s'appuyant vraiment sur la manière dont ces activités sont territorialisées. Donc, in fine, ces technologies devraient aussi nous offrir des opportunités pour ce développement, même si je suis d'accord avec toi que ce n'est pas toujours le cas, pour ce développement plus convivial et plus écologique.